Allons, soit. Si je ne puis rien contre le fabricant, je m'en vais faire concurrence à ce professeur de droit. C'est un sot, et j'en sais 100 fois plus que lui. Je ferai déserter son auditoire. As-tu fait des études, mon ami, et es-tu reçu docteur ? Non, mais à quoi bon ? Je possède largement les connaissances nécessaires à cet enseignement. Je suis fâché, mais ici la concurrence n'est pas libre. Contre ta personne, il n'y a rien à dire. Mais la chose essentielle te manque, le diplôme de docteur. Et ce diplôme, moi, l'État, je l'exige. Demande-le-moi d'abord, bien gentiment, et nous verrons ensuite ce qu'il y a à faire. Voilà à quoi se réduit la liberté de la concurrence. Il faut que l'État, mon seigneur et maître, me confère l'aptitude à concourir. Mais aussi, sont-ce bien en réalité les personnes qui concourent ? Non, encore une fois, ce sont les choses. L'argent en première ligne, etc. Dans la lutte, il y aura toujours des vaincus. Ainsi, le poète médiocre devra céder la palme, etc. Mais ce qu'il importe de distinguer, c'est d'abord si les moyens qui font défaut aux concurrents malheureux sont personnels ou matériels et, en second lieu, si les moyens matériels peuvent s'acquérir à force d'énergie personnelle, ou si l'on ne peut les obtenir que par la faveur. En simple don, le pauvre, par exemple, étant forcé de laisser au riche sa richesse, c'est-à-dire de lui en faire cadeau. En somme, s'il faut que j'attende l'autorisation de l'État pour avoir les moyens ou les mettre en œuvre, comme c'est le cas par exemple lorsqu'il s'agit d'un diplôme, ces moyens sont une grâce que l'État m'accorde. Tel est au fond le sens de la libre concurrence. L'État considère tous les hommes comme ses enfants et comme égaux. Libre à chacun de faire tout son possible pour mériter les biens et les faveurs dont l'État est le dispensateur. Aussi, tous se lancent à la poursuite de la fortune, des biens, argent, emploi, titres, etc. En un mot, des moyens matériels. Au sens bourgeois, tout homme possède, chacun est propriétaire. Comment se fait-il donc que la plupart n'aient pour ainsi dire rien ? Cela vient de ce que la plupart sont déjà tout heureux, rien que d'être propriétaires, ne fût-ce que de quelques loques, comme les enfants se font un bonheur de leur première culotte ou du premier sou qu'on leur a donné. À examiner la chose de plus près, voici comment il faut l'entendre. Le libéralisme vint d'abord déclarer qu'il était de l'essence de l'homme d'être non pas propriété, mais propriétaire. Comme cela ne s'appliquait qu'à l'homme et non à l'individu, cela abandonnait à l'individu le soin de déterminer la quotité nécessaire à la satisfaction de son intérêt personnel. Il en résulta que l'égoïsme de l'individu, conservant au sujet de cette quotité la plus grande latitude, se jeta à corps perdu dans la concurrence. Fatalement, l'égoïsme heureux devait porter l'ombrage à celui qui était moins favorisé. Ce dernier, s'appuyant toujours sur le principe de l'humanité, souleva la question du quotient de répartition des biens sociaux et la résolut ainsi. L'homme doit avoir autant qu'il lui est nécessaire. Mais mon égoïsme pourra-t-il se contenter de cela ? Les besoins de l'homme ne sont nullement une mesure applicable à moi et à mes besoins, car je puis avoir besoin de plus ou de moins. Non, je dois avoir autant que je suis capable de m'approprier. Chacun n'a pas à sa disposition les moyens de concourir, parce que ces moyens, et c'est là le vice fondamental de la concurrence, ne dépendent pas de la personne, mais de circonstances tout à fait indépendantes de cette dernière. La plupart des hommes sont dépourvus de ces instruments et, par suite, des biens qu'ils pourraient en tirer. Aussi, les socialistes réclament-ils pour tous les hommes les instruments et préparent-ils une société qui fournira à tous ces instruments. Nous ne reconnaissons plus, disent-ils, tes richesses, avoir, comme ta richesse, pouvoir. Tu auras à te créer une autre richesse, à te pourvoir d'autres moyens d'action qui seront ta force de travail. Sous l'homme en possession d'un avoir, sous le possesseur, nous apercevons l'homme, aussi avons-nous provisoirement respecté ce possesseur que nous nommions propriétaire. mais il faut bien te dire que tu ne détiens les choses qu'en attendant que tu sois exproprié. Celui qui possède est riche, mais pour autant seulement que les autres ne le sont pas. Et comme ta marchandise ne forme ta richesse qu'aussi longtemps que tu es capable de la maintenir en ta possession, c'est-à-dire aussi longtemps que nous n'avons pas de pouvoir sur elle, il faudra bien que tu cherches à te procurer d'autres moyens d'action, car notre puissance l'emporte aujourd'hui sur ta prétendue richesse. Parvenir à être considéré comme possesseur réalisait déjà un progrès énorme. Le servage disparaissait et l'homme, qui jusque-là avait dû la corvée à son seigneur et avait été plus ou moins la propriété de ce dernier, devenait à son tour un seigneur, un monsieur. Mais il ne suffit plus, désormais, que tu possèdes. Ton avoir est démonétisé. Par contre, ton travail augmente de prix. Tu ne vaux à nos yeux qu'en tant que tu mets en œuvre les choses, comme autrefois, en tant que tu les avais. C'est ton travail qui est ta richesse. Tu n'es plus, désormais, maître et possesseur que de ce qui naît de ton travail, et non plus de ce que peut te donner un héritage. En attendant, comme il n'existe pas de possession qui naît à sa source l'héritage, comme tous les sous qui forment ton avoir sont à l'effigie de l'hérédité et non à l'effigie du travail, il faut que tout soit refondu au creuset commun. Mais est-il bien vrai, comme le pensent les communistes, que ma richesse ne consiste que dans mon travail ? Ne consiste-t-elle pas plutôt en tout ce dont je suis capable ? La société des travailleurs elle-même est bien obligée d'en convenir, puisqu'elle vient en aide aux malades, aux enfants, aux vieillards, en un mot, à ceux qui sont impropres au travail. Ceux-ci sont encore capables de bien des choses, ne fût-ce que de conserver leur vie au lieu de se l'ôter. Et s'ils sont capables de vous faire désirer leur conservation, c'est qu'ils possèdent un pouvoir sur vous. À celui qui n'exercerait absolument aucun pouvoir sur vous, vous n'accorderiez rien, il n'aurait plus qu'à disparaître. Ainsi, ta richesse consiste en tout ce dont tu es capable. Si tu es capable de procurer un plaisir à des milliers d'hommes, ces milliers d'hommes te donneront des honoraires, parce qu'il est en ton pouvoir de cesser de leur être agréable et que cela les oblige à acheter ton travail. Mais si tu n'es capable d'intéresser personne à toi, tu es tout juste capable de disparaître. Ne dois-je donc pas, moi qui suis capable de beaucoup, avoir l'avantage sur ceux qui peuvent moins ? Nous voici attablés devant l'abondance. Vais-je m'abstenir de me servir de mon mieux et attendre ce qui me reviendra d'un partage égal ? Contre la concurrence se dresse le principe de la société des gueux, le principe du partage égal. L'individu ne supporte pas de n'être considéré que comme une fraction, un tantième de la société, parce qu'il est plus que cela. Son unicité s'insurge contre cette conception qui le diminue et le rabaisse. Aussi n'admet-il pas que les autres lui adjugent sa part. Déjà, dans la société des travailleurs, il soupçonne que le partage égal aura pour effet de dépouiller le fort au profit du faible. Il n'attend, au contraire, sa richesse que de lui-même, et il dit « Ce que je suis capable de me procurer, voilà ma richesse ». Quelle richesse ne possède pas l'enfant dans son sourire, dans ses gestes, dans sa voix, dans le seul fait qu'il existe ? Êtes-vous capable de résister à son désir ? Toi, mère, ne lui offres-tu pas ton sein ? Et toi, père, ne te refuses-tu pas bien des choses pour qu'il ne manque de rien ? Il vous contraint, et par cela même il possède ce que vous croyez à vous. Si je tiens à ta personne, ta seule existence a déjà pour moi une valeur. Si je n'ai besoin que d'une de tes facultés, c'est ta complaisance ou ton assistance qui ont un prix à mes yeux et que j'achète. Il se peut aussi que tu ne saches prendre à mon estimation qu'une valeur en argent. C'était le cas des citoyens allemands vendus à beaux deniers et expédiés en Amérique, dont l'histoire raconte l'Odyssée. Dira-t-on que le vendeur devait faire plus grand cas d'eux qui se laissèrent vendre. Ils préféraient l'argent comptant à cette marchandise vivante qui n'avait pas su se rendre précieuse à ses yeux. s'il ne reconnaissait pas en eux une plus grande valeur, c'est qu'en définitive, sa marchandise ne valait pas grand-chose, et un fripon ne regarde pas à la qualité de ce qu'il donne. Comment leur aurait-il témoigné une estime qu'il ne ressentait pas, qu'il pouvait à peine ressentir pour un pareil bétail? La pratique égoïste consiste à ne considérer les autres ni comme des propriétaires, ni comme des gueux ou des travailleurs, mais à voir en eux une partie de votre richesse, des objets qui peuvent vous servir. Cela étant, vous ne paierez rien à celui qui possède. Au propriétaire, vous ne paierez rien à celui qui travaille, vous ne donnerez qu'à celui dont vous avez besoin. Avons-nous besoin d'un roi ? Disent les Américains du Nord. Et ils répondent : nous ne donnerions pas un liard ni de lui, ni de son travail. Lorsqu'on dit que la concurrence met tout à la portée de tous, on s'exprime d'une façon inexacte. Il est plus juste de dire que grâce à elle, tout est à vendre. En mettant tout à la disposition de tous, elle le livre à leur appréciation et en demande un prix. Mais les amateurs manquent le plus souvent du moyen de se faire acheteur. Ils n'ont pas d'argent. On peut, avec de l'argent, se procurer tout ce qui est à vendre, mais justement c'est l'argent qui fait défaut. Où prendre l'argent, cette propriété mobile ou circulante ? Sache donc que tu as autant d'argent que tu as de puissance, car tu as la valeur que tu sais te donner. On ne paie pas avec de l'argent dont on peut être à court, mais avec sa richesse, son pouvoir. Car on est propriétaire que ce dont on est maître. Watling a imaginé un nouvel instrument d'échange, le travail. Mais le véritable instrument de paiement reste encore, comme toujours, notre richesse. Tu paies avec ce que tu as en ton pouvoir. Songe donc à augmenter ta richesse. En concédant tout cela, on est tout près de répéter la maxime. À chacun selon ses moyens. Mais qui me donnera selon mes moyens ? La société ? Je devrais pour cela me soumettre à son estimation. Non, je prendrai selon mes moyens. Tout appartient à tous. Cette proposition procède aussi d'une théorie futile. À chacun appartient seulement ce qu'il peut. Lorsque je dis « le monde est à moi », c'est là aussi une phrase vide de sens. À moins que je ne veuille simplement faire entendre que je ne respecte aucune propriété étrangère. Cela seul est à moi, que j'ai en mon pouvoir, qui dépend de ma force. On n'est pas digne d'avoir ce que par faiblesse on se laisse prendre. On n'est pas digne de le garder parce qu'on n'est pas capable de le garder. On fait grand bruit de l'injustice séculaire, des riches envers les pauvres, comme si c'était la faute des riches s'il y a des pauvres, et comme si ce n'était pas aussi la faute des pauvres s'il y a des riches. Quelle différence y a-t-il entre eux, sinon celle qui sépare la puissance de l'impuissance et ceux qui peuvent de ceux qui ne peuvent pas? Quels crimes les riches ont-ils commis? Ils sont durs? Mais qui donc a entretenu les pauvres? Qui a pourvu à leur subsistance lorsqu'ils ne pouvaient plus travailler? Qui a répandu à profusion les aumônes? Ces aumônes dont le nom même signifie compassion. Les riches ne furent-ils pas toujours compatissants? Ne furent-ils pas toujours charitables? Et les taxes des pauvres, les crèches, les hospices, les établissements de bienfaisance, de toute espèce, d'où viennent-ils? Mais tout cela ne vous suffit pas. Les riches devraient, n'est-ce pas, partager avec les pauvres? En un mot, ils devraient supprimer la misère. Sans compter qu'il y a à peine un de vous qui consentirait à partager et que celui-là serait un fou. Demandez-vous, pourquoi les riches devraient-ils se dépouiller et se dévouer alors que c'est aux pauvres que cette conduite profiterait, bien plus qu'à eux-mêmes? Toi qui touches un écu par jour, tu es un riche à côté de milliers d'hommes qui vivent avec 10 sous. Est-il de ton intérêt de partager avec eux ou n'est-ce pas plutôt du leur? Grâce à la concurrence, ce qu'on fait, on ne le fait pas avec l'intention de le faire de son mieux, mais avec l'intention de le faire le plus lucrativement possible, avec le moins de frais et le plus grand bénéfice possible. Aussi n'étudie-t-on que pour se faire une position. On apprend les courbettes et les belles manières, on tâche d'acquérir la routine et la connaissance des affaires. on travaille pour la forme. Et tandis qu'en apparence, il s'agit de bien remplir ses fonctions, on ne vise en réalité qu'à faire une bonne affaire, à gagner de l'argent. On fait son métier prétendument par amour du métier, mais en réalité pour l'amour du bénéfice qu'il procure. Si l'on devient censeur, ce n'est pas que le métier soit attrayant, mais la position n'est pas déplaisante. Et puis on veut monter en grade. On voudrait bien administrer, rendre la justice, etc., en toute conscience, mais on craint d'être déplacé ou révoqué. Avant tout, il faut bien qu'on vive. Toute cette pratique est en somme une lutte pour cette chère vie, une suite d'efforts ininterrompus pour s'élever de degré en degré jusqu'à plus ou moins de bien-être. Et toute leur peine et tous leurs soucis ne rapportent à la plupart des hommes qu'une vie amère, une amère indigence. Tant d'ardeur pour si peu de choses. Une infatigable âpreté à la curée ne nous laisse pas le temps de respirer et de nous arrêter à une jouissance paisible. Nous ne connaissons pas la joie de posséder. Lorsqu'on parle d'organiser le travail, on ne peut avoir en vue que celui dont d'autres peuvent s'acquitter à notre place, par exemple celui du boucher, du laboureur, etc. Mais il est des travaux qui restent du ressort de l'égoïsme, attendu que personne ne peut exécuter pour vous le tableau que vous peignez, produire vos compositions musicales, etc. Personne ne peut faire l'œuvre de Raphaël. Ces derniers travaux sont ceux d'un unique. Ce sont les œuvres que cet unique seul est à même d'exécuter, tandis que les premiers sont des travaux banaux que l'on pourrait appeler humains, attendu que l'individualité de l'ouvrier y est sans importance et qu'on peut y dresser à peu près tous les hommes. Comme la société ne peut prendre en considération que les travaux qui présentent une utilité générale, les travaux humains, sa sollicitude ne peut pas s'étendre à celui qui fait œuvre d'unique. Son intervention dans ce cas pourrait même être nuisible. L'unique saura bien s'élever dans la société par son travail, mais la société ne peut pas lever l'unique. Il est, par conséquent, toujours à souhaiter que nous nous unissions pour les travaux humains, afin qu'ils n'absorbent plus tout notre temps et tous nos efforts comme ils le faisaient sous le régime de la concurrence. À ce point de vue, le communisme est appelé à porter des fruits. Ce dont tout le monde est capable ou peut devenir capable était, avant l'avènement de la bourgeoisie, au pouvoir de quelques-uns et refusé à tous les autres. C'était le temps du privilège. La bourgeoisie trouva juste de permettre à tous l'accès de ce qui paraissait convenir à quiconque est homme. Toutefois, ce qu'elle permettait à tous, elle ne le donnait réellement à personne. Elle laissait seulement chacun libre de s'en emparer par ses efforts humains. Tous les yeux se dirigèrent vers ces biens humains, qui dès lors souriaient à tous les passants, et il en résulta cette tendance que l'on entend à chaque instant déplorer sous le nom de matérialisme des mœurs. Le communisme essaie d'y mettre un frein en répandant la croyance que les biens humains n'exigent pas que l'on se donne tant de peine pour eux, et qu'on peut, par une organisation judicieuse, se les procurer sans la grande dépense de temps et d'énergie qui a paru nécessaire jusqu'à présent. Mais pour qui faut-il gagner du temps ? Pourquoi l'homme a-t-il besoin de plus de temps qu'il n'en faut pour ranimer ses forces puisées par le travail ? Ici, le communisme se tait. Pourquoi ? Eh bien, pour jouir de soi-même comme unique après avoir fait sa part comme homme. Dans la première joie de se voir autorisé à allonger la main vers tout ce qui est humain, on ne songea plus à désirer autre chose, et on se lança par les chemins de la concurrence à la poursuite de cet humain comme si sa possession était le but de tous nos vœux. Mais après une course effrénée, on s'aperçoit enfin que la richesse ne fait pas le bonheur, et l'on cherche à se procurer le nécessaire à moindre frais, et à ne lui consacrer que le temps et les peines indispensables. La richesse se trouve dépréciée, et la pauvreté satisfaite, la gueuserie insouciante, devient le séduisant idéal. Est-il bien nécessaire que telles fonctions humaines, auxquelles tout le monde se croit apte, soient mieux rémunérées que les autres, et qu'on dépense pour s'y élever toutes ses forces et toute son énergie ? Sans chercher plus loin, la phrase si souvent employée « Ah, si j'étais le ministre, si j'étais le... » ça ne se passerait pas ainsi, exprime déjà la conviction qu'on se sent capable de jouer le rôle d'un de ces dignes personnages. On sent très bien qu'il n'est pas besoin pour cela d'une personnalité exceptionnelle, mais qu'il suffit d'un degré de culture accessible, en somme, sinon à tout le monde, du moins au grand nombre, pour toutes ces choses, un homme ordinaire suffit. En admettant même que, si l'ordre est essentiel à l'État, la nécessité d'une subordination hiérarchique ne lui est pas moins imposée par sa nature. Nous remarquerons que ceux qui trônent au sommet de la hiérarchie jouissent de biens et de privilèges démesurés en comparaison de ceux qui occupent des degrés inférieurs de l'échelle sociale. Pourtant, ces derniers, inspirés d'abord par la doctrine socialiste, plus tard sans doute aussi par un sentiment égoïste, dont nous donnerons dès à présent une légère teinte à leur langage, s'enhardissent à demander. Qu'est-ce donc qui fait la sécurité de votre propriété, messieurs les privilégiés ? Et ils répondent eux-mêmes. Votre propriété est sûre parce que nous nous abstenons de l'attaquer, donc grâce à notre protection. Et que nous donnez-vous en récompense ? Vous n'avez pour le menu peuple que du mépris et des coups de pied, la surveillance de la police et un catéchisme avec ce principe fondamental. Respecte ce qui n'est pas à toi, ce qui est à autrui. Respecte les autres, et en particulier tes supérieurs. À cela nous répondons. Vous voulez notre respect ? Soit, achetez-le-nous. Voici le prix que nous en demandons. Nous voulons bien vous laisser votre propriété, mais moyennant une compensation suffisante. Qu'est-ce qu'un général fournit en temps de paix pour compenser les milliers d'écus de son traitement ? Et tel autre pour ses centaines de mille ou ses millions annuels. Quelle compensation recevons-nous de vous ? Pour manger des pommes de terre en vous regardant tranquillement humer vos huîtres ? Achetez-nous seulement ces huîtres au prix où nous devons vous acheter les pommes de terre, et vous pourrez continuer à les manger en paix. Vous imaginez-vous peut-être que les huîtres ne sont pas à nous comme à vous ? Vous crierez à la violence si vous nous voyez en remplir notre assiette et nous mettre à les consommer avec vous, et vous auriez raison. Sans violence, nous ne les aurons pas, mais vous, ce n'est que parce que vous nous faites violence que vous les avez. Mais va pour les huîtres, et passons à une propriété qui nous touche de plus près, car tout cela n'était que possession au travail. Nous peinons 12 heures par jour à la sueur de notre front, et vous nous donnez pour cela quelques sous. Eh bien, faites-vous donc payer votre travail au même prix ? Cela ne vous va pas ? Vous imaginez-vous peut-être que notre travail est ainsi royalement payé, tandis que le vôtre vaut un traitement de 20 000 francs ? Mais si vous ne taxiez pas le vôtre à si haut prix, et si vous nous laissiez tirer un meilleur parti du nôtre, qui vous dit que nous ne serions pas capables de produire des choses plus importantes que tout ce que vous avez fait jusqu'ici, avec vos milliers d'écus ? Si vous ne receviez plus qu'un salaire comme le nôtre, vous deviendriez bientôt plus assidu pour gagner davantage. Si vous exécutez des choses qui nous semblent valoir 10 fois, 100 fois plus que notre propre travail, qu'à cela ne tienne, vous en recevrez 100 fois plus. De notre côté, nous projetons aussi des travaux que vous nous paierez mieux que de notre salaire habituel. Nous serons bientôt d'accord, pourvu qu'il soit bien entendu que personne n'a plus à faire ni à recevoir de cadeaux. Qui sait ? Nous pourrons même bien aller jusqu'à payer de notre poche un prix équitable aux infirmes, aux malades et aux vieillards, pour que la faim et la misère ne nous les enlèvent pas. Car si nous voulons qu'ils vivent, la satisfaction de ce désir, il convient que nous l'achetions. Je dis bien que nous l'achetions. Je ne songe nullement à une misérable aumône. Leur vie est aussi leur propriété, à ceux-là même qui ne peuvent pas travailler. Et si nous voulons, n'importe pour quelle raison, qu'ils ne nous privent pas de cette vie qui est à eux, il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir ce résultat qu'en l'achetant. Il se pourra même, un peu parce que nous aimons à voir autour de nous des visages souriants, que nous voulions leur bien-être. Seulement, plus de cadeaux. Gardez les vôtres et n'en attendez plus de nous. Il y a des siècles que nous vous faisons l'aumône avec une bonne volonté stupide. Il y a des siècles que nous gaspillons l'obole du pauvre et que nous rendons au Seigneur ce qui n'est pas au Seigneur. C'est fini. déliez les cordons de votre bourse, car dès à présent, le prix de notre marchandise est en hausse énorme. Nous ne nous prendrons rien, rien du tout, mais vous paierez mieux ce que vous voudrez avoir. Toi, quelle est ta fortune ? J'ai un bien de 1000 arpents. Eh bien, moi, je suis ton valet de charrue, et dorénavant, je ne labourerai plus ton champ qu'au prix d'un écu par jour. Alors, j'en prendrai un autre. Tu n'en trouveras pas, car nous autres laboureurs, nous ne travaillons plus à d'autres conditions. Et s'il s'en présente un qui demande moins, qu'il prenne garde à lui. Voici la servante, qui à présent demande tout autant, et tu n'en trouveras plus en dessous de ce prix. Mais alors je suis ruiné. Doucement, il te reviendra toujours bien autant qu'à nous. Du reste, s'il en était autrement, nous rabattrions assez pour que tu puisses vivre comme nous. Mais je suis habitué à vivre mieux. Nous le voulons bien, mais cela ne nous regarde pas. Tâche de réduire ta dépense. Faut-il nous louer au rabais pour que tu puisses bien vivre ? Le riche régale toujours le pauvre de ses paroles. Est-ce que ta misère me regarde ? Tâche de te tirer d'affaire comme tu pourras. C'est ton affaire et non la mienne. Soit, nous y veillerons, et nous ne laisserons plus les riches accaparer à leur profit les moyens que nous avons de tirer parti de nous-mêmes. Pourtant, vous autres, gens sans instruction, vous n'avez pas autant de besoins que nous. Qu'à cela ne tienne, nous prendrons quelque chose de plus pour être à même de nous procurer l'instruction dont nous pourrons avoir besoin. Et si vous abattez ainsi les riches, qui est-ce donc qui soutiendra encore les arts et les sciences ? Mais c'est au public de le faire. Nous nous cotiserons. On fait aussi de jolies petites sommes. D'ailleurs, nous savons comment vous autres, riches, vous encouragez les arts. Vous n'achetez que des livres insipides, ou des saintes vierges de la plus lamentable platitude, quand ce n'est pas une paire de jambes de danseuse. Ah, la maudite égalité ! Non, mon bon vieux monsieur, il ne s'agit pas ici d'égalité. Nous voulons tout bonnement compter pour ce que nous valons. Si vous valez plus que nous, qu'à cela ne tienne, vous compterez pour plus. Ce que nous voulons, c'est avoir une valeur, et nous avons bien l'intention de nous montrer dignes du prix que vous paierez. L'État est-il capable d'éveiller chez le salarié une aussi courageuse confiance et un sentiment aussi vif de son « moi » ? L'État peut-il faire que l'homme ait conscience de sa valeur ? Il y a plus. Oserait-il se proposer un tel but ? Peut-il vouloir que l'individu connaisse sa valeur et en tire le meilleur profit ? La question, on le voit, est double. Voyons en premier lieu ce que l'État est capable de réaliser dans cette direction. Il faut, nous l'avons vu, que tous les garçons de charrue marchent la main dans la main. Mais aussi, il n'y a que cet accord qui puisse donner un résultat. Une loi de l'État se verrait éludée de 1000 manières et resterait lettre morte par l'effet de la concurrence. En second lieu, que peut permettre l'État ? Il lui est impossible de tolérer que les gens subissent une autre contrainte que la sienne. Il ne peut donc tolérer que les garçons de charrue coalisés se fassent justice contre ceux qui voudraient se louer à trop bas prix. Supposons pourtant que l'État ait fait une loi et que les valets de labour soient parfaitement d'accord. L'État pourrait-il alors consentir ? Dans ce cas isolé, oui. Mais ce cas isolé est plus que cela. Il met en jeu un principe. Ce qui est en question ici, c'est le moi réalisant lui-même sa valeur, et par conséquent, s'affirmant en face de l'État. Jusque-là, les communistes étaient d'accord avec nous. Mais la mise en valeur de soi-même est nécessairement en contradiction non seulement avec l'État, mais encore avec la société. Elle vise bien au-delà du commun et du communiste, par égoïsme. Le communisme fait du principe de la bourgeoisie que tout homme est possesseur, propriétaire, une vérité indiscutable, une réalité, en mettant fin au souci d'acquérir et en faisant que chacun ait ce dont il a besoin. C'est la puissance de travail de chacun qui forme sa richesse, et s'il n'en fait pas usage, c'est sa faute. C'en est fait des compétitions infatigables, et nulle concurrence ne demeure plus, comme c'était trop souvent le cas jusqu'aujourd'hui, stérile, attendu que tout effort de travail a pour effet de procurer à celui qui le fait le nécessaire. À présent seulement, on possède réellement. Ce que quelqu'un possède en puissance, dans sa capacité de travail, il ne peut plus le perdre, comme sous le régime de la concurrence. Cela menaçait à chaque instant de lui échapper. On est possesseur d'une façon assurée et sans souci. Et on l'est précisément parce qu'on ne cherche plus sa richesse dans une marchandise, mais dans sa puissance de travail, c'est-à-dire parce qu'on est un gueux, un homme dont la fortune n'est qu'idéale. Quant à moi, je ne puis me contenter de la maigre pitance que me rapporterait mon labeur, parce que ma richesse ne consiste pas seulement dans mon travail. Par le travail, je puis arriver, par exemple, à m'acquitter des fonctions d'un président ou d'un ministre. Ces emplois n'exigent que l'instruction moyenne, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Car l'instruction moyenne ne signifie pas seulement l'instruction que tout le monde possède, mais celle, par exemple, du médecin, du militaire, du philosophe, que tout le monde peut acquérir et qu'un homme cultivé ne croit pas au-dessus de ses forces. Ou, en somme, qu'un savoir-faire dont tout le monde est capable. Mais s'il est vrai que ces fonctions peuvent être exercées par tout homme, quel qu'il soit, ce n'est pourtant que la force unique de l'individu, propre exclusivement à l'individu, qui leur donne en quelque sorte une vie et une signification. S'il ne remplit pas ses fonctions comme un homme ordinaire, mais s'il y dépense tout le trésor de son unicité, il n'est pas payé par le fait qu'il touche le traitement ordinaire de l'employé ou du ministre. S'il vous a pleinement satisfait, et si vous voulez continuer à bénéficier non seulement de son travail de fonctionnaire, mais en plus de sa précieuse puissance individuelle, vous ne le paierez pas seulement comme un homme ordinaire, qui ne fait que de la besogne humaine, mais encore comme un producteur d'unique. Faites payer de même votre propre travail. On ne peut appliquer à l'œuvre de mon unicité un prix général comme à ce que je fais en tant qu'homme. Ce n'est qu'en cette dernière qualité que je puis travailler à forfait. Fixez donc, je le veux bien, une taxe générale pour les travaux humains, mais que le contrat n'ait pas pour effet d'aliéner votre unicité. Tes besoins humains, ou généraux, peuvent être satisfaits par la société, mais c'est à toi à chercher la satisfaction de tes besoins uniques. La société ne peut ni te procurer une amitié ou le service d'un ami, ni même t'assurer les bons offices d'un individu. Et pourtant, tu auras à chaque instant besoin de services de ce genre. Dans les circonstances les plus insignifiantes, il te faudra quelqu'un pour t'assister. Ne compte pas pour cela sur la société, mais fais en sorte d'avoir de quoi acheter la satisfaction de tes désirs. Faut-il que l'usage de l'argent soit conservé entre égoïstes ? À l'ancienne monnaie s'attache la tare de la possession héréditaire. Ne la recevez plus en paiement, et elle est ruinée. Ne faites plus rien pour cet argent, et toute sa puissance s'évanouit. Biffez le mot « héritage », et le sceau du magistrat est sans vertu. À présent, tout est héritage, que l'héritier soit ou ne soit pas encore en possession. Si tout cela est à vous, pourquoi le laisser mettre sous scellé ? Pourquoi vous inquiéter des sceaux ? Mais à quoi bon créer un nouvel instrument ? Anéantissez-vous donc la marchandise parce que vous lui ôtez le cachet de l'hérédité ? Considérez la monnaie comme une marchandise, à ce titre, elle est un précieux moyen, une richesse. Car elle empêche l'ankylose de la richesse, la maintient en circulation et en opère l'échange. Si vous connaissez un meilleur instrument d'échange, adoptez-le, je le veux bien. Mais ce sera encore toujours l'argent, sous une nouvelle forme. Ce n'est pas l'argent qui vous fait du mal, mais bien votre impuissance à le prendre. Mettez en jeu tous vos moyens, faites tous vos efforts, et l'argent ne vous manquera pas. Ce sera un argent à vous, une monnaie à votre effigie. Mais travailler, ce n'est pas cela que j'appelle mettre en jeu tous vos moyens. Ceux qui se contentent de chercher du travail, d'avoir la volonté de bien travailler, ceux-là sont condamnés fatalement, et par leur faute, à devenir des sans-travail. C'est de l'argent que dépend le bonheur et le malheur. Ce qui en fait une puissance dans la période bourgeoise, c'est qu'on ne fait que le courtiser comme une jeune fille, mais que personne ne l'épouse. Tous les procédés romanesques et chevaleresques, pour s'attacher à une femme aimée, se retrouvent dans la concurrence. et c'est par un enlèvement que les hardis chevaliers d'industrie conquièrent l'argent, objet de leur ardente passion. Celui que la chance favorise emmène chez lui la fiancée. Le gueux introduit la jeune fille dans son ménage, qui est la société, et elle disparaît. Dans sa maison, elle n'est plus la fiancée, mais la femme, et avec sa virginité s'en va son nom de famille. La jeune fille s'appelait Argent, elle s'appelle aujourd'hui Travail, parce que Travail est le nom du mari. Elle est la propriété du mari. Pour en finir avec cette comparaison, l'enfant de Travail et d'Argent est de nouveau une fille, et de nouveau célibataire, c'est-à-dire Argent, mais avec une filiation certaine. Elle est issue de Travail, son père. Les traits du visage, l'effigie, présentent un caractère nouveau. Revenons-en enfin encore une fois à la concurrence. La concurrence doit précisément son existence à ce que personne ne s'occupe de ses affaires et ne songe à s'entendre avec les autres à leur sujet. Le pain, par exemple, est un objet de première nécessité pour tous les habitants d'une ville. Donc, rien de plus naturel que de s'accorder pour établir une boulangerie publique. Au lieu de cela, on abandonne cette indispensable fourniture à des boulangers qui se font concurrence, et ainsi de la viande au boucher, du vin aux marchands de vin, etc. Abolir le régime de la concurrence ne veut pas dire favoriser le régime de la corporation. Voici la différence. Dans la corporation, faire le pain, etc., est l'affaire des compagnons. Sous la concurrence, c'est l'affaire de ceux à qui il plaît de concourir. Dans l'association, c'est l'affaire de ceux qui ont besoin de pain. Par conséquent, la mienne, la vôtre, ce n'est l'affaire ni des compagnons, ni des boulangers patentés, mais bien celle des associés. Si je ne m'inquiète pas de mes affaires, il faut bien que je me contente de ce qu'il plaît à d'autres de me donner. Or, avoir du pain est mon affaire. J'en veux, je ne puis m'en passer. Et pourtant, on s'en remet aux boulangers, sans autre espoir que d'obtenir de leur discorde, de leur jalousie, de leur rivalité, en un mot de leur concurrence, un avantage sur lequel on ne pouvait pas compter avec les membres des corporations, qui étaient entièrement et exclusivement en possession du monopole de la boulangerie. Ce dont chacun a besoin, chacun aussi devrait participer à sa production ou à sa fabrication. C'est son affaire, sa propriété, et non la propriété des membres de telle corporation ou de tel patron patenté. Jetons encore un regard en arrière. Le monde appartient aux enfants de ce monde, aux enfants des hommes. Il n'est plus le monde de Dieu, mais le monde des hommes. Tout ce que chaque homme peut s'en procurer, il peut le nommer sien. Seulement le véritable homme, l'État, la société humaine ou l'humanité, veilleront à ce que chacun ne fasse sien que ce qu'il s'approprie en tant qu'homme, c'est-à-dire d'une manière humaine. L'appropriation non humaine n'est pas autorisée par l'homme, elle est criminelle, tandis que, au contraire, l'appropriation humaine est juste et se fait par une voie légale. C'est ainsi qu'on parle depuis la Révolution. Mais nulle chose n'est en elle-même ma propriété, vu qu'une chose a une existence indépendante de moi. Seule ma puissance est à moi. Cet arbre n'est pas à moi, ce qui est à moi, c'est mon pouvoir sur lui, l'usage que j'en fais. Et comment exprime-t-on ce pouvoir? On dit j'ai un droit sur cet arbre, ou bien il est ma légitime propriété. Or, si je l'ai acquis, c'est par la force. On oublie que la propriété ne dure qu'aussi longtemps que la puissance reste agissante, ou plus exactement, on oublie que la puissance n'est pas une entité, mais qu'elle n'a d'existence que comme puissance du moi, et qu'elle n'existe qu'en moi, le puissant. On élève la puissance, comme d'autres de mes propriétés, l'humanité, la majesté, etc., au rang d'être pour soi, de sorte qu'elle ne cesse pas d'exister alors qu'elle a depuis longtemps cessé d'être ma puissance. Ainsi transformée en fantôme, la puissance est le droit. Cette puissance immortalisée ne s'éteint pas même à ma mort. Elle est transmissible, héréditaire. Il suit de là qu'en réalité, les choses appartiennent non pas à moi, mais au droit. Tout cela n'est qu'une vaine apparence pour un autre motif encore. La puissance de l'individu ne devient permanente et ne devient un droit que pour autant que d'autres individus conjuguent leur puissance à la sienne. L'illusion consiste à croire qu'ils ne peuvent plus retirer leur puissance à ceux auxquels ils l'ont accordée. Ici reparaît le même phénomène que tantôt, le divorce de la puissance et du moi. Je ne puis pas reprendre au possesseur la part de puissance qui lui vient de moi. On a donné plein pouvoir, on s'est dessaisi du pouvoir, on a renoncé à celui de prendre un meilleur parti. Le propriétaire peut renoncer à sa puissance et à son droit sur une chose en faisant don, en la dissipant, etc. Et nous, nous ne pourrions pas également abandonner la puissance que nous lui avons prêtée? L'homme, selon le droit, l'honnête homme, ne demande pas à faire sien ce qui n'est pas à lui de droit ou ce à quoi il n'a pas droit. Il ne revendique que sa propriété légitime. Qui donc sera juge et fixera les limites de son droit? Finalement, ce doit être l'homme, car c'est de lui qu'on tient les droits de l'homme. Par conséquent, on peut dire avec Terence, mais dans un sens infiniment plus large que lui, que l'humain est ma propriété. De quelque manière qu'on s'y prenne, sur ce terrain, on aura inévitablement un juge. Et de notre temps, les divers juges que l'on s'était donnés ont fini par s'incarner en deux personnes mortellement ennemies, le Dieu et l'homme. Les uns se réclament du droit divin, les autres du droit humain ou des droits de l'homme. Ce qui est clair, c'est que dans les deux cas, l'individu ne crée pas lui-même son droit. Trouvez-moi donc aujourd'hui une seule action qui n'offense pas un droit. À chaque instant, les droits de l'homme sont foulés aux pieds par les uns, tandis que les autres ne peuvent pas ouvrir la bouche sans blasphémer contre le droit divin. Faites l'aumône et vous outragez un droit de l'homme, puisque le rapport de mendiant à bienfaiteur n'est pas humain. Exprimez un doute, vous péchez contre un droit divin. Mangez votre pain sec avec contentement, votre résignation est une offense aux droits de l'homme. Mangez-le en mécontent, et vos murmures sont une insulte au droit divin. Il n'est pas un de vous qui ne commette à chaque instant un crime. Tous vos discours sont des crimes, et toute entrave à votre liberté de discourir n'est pas moins un crime. Vous êtes tous des criminels. Cependant, vous ne l'êtes que parce que vous vous tenez tous sur le terrain du droit, c'est-à-dire parce que vous ne savez pas que vous êtes criminels et ne savez pas vous en féliciter. La propriété inviolable ou sacrée a pris naissance sur ce même terrain. Elle est la fille spirituelle du droit. Le chien qui voit un os en la puissance d'un autre n'y renonce que s'il se sent trop faible. Mais l'homme respecte le droit de l'autre à son os. Ceci est considéré comme humain, cela comme brutal ou égoïste. Et partout, comme dans ce cas-ci, ce qui est humain, c'est de voir en tout quelque chose de spirituel, ici le droit, c'est-à-dire de faire de toute chose un fantôme que l'on peut bien chasser dès qu'il se montre mais qu'on ne peut pas tuer. Ce qui est humain, c'est de voir dans tout objet particulier, non pas quelque chose de particulier, mais quelque chose de général. Je ne dois plus à la nature, comme telle, aucun respect. Je sais que j'ai à son égard tous les droits. Mais je suis tenu de respecter dans l'arbre du jardin que voilà sa qualité d'objet étranger. À un point de vue plus étroit, on dit de respecter la propriété. Et il ne m'est pas permis d'y toucher. Et cela ne pourra changer que quand je ne verrai pas dans le fait de laisser cet arbre à autrui autre chose que dans le fait de lui abandonner, par exemple, mon bâton, c'est-à-dire quand j'aurai cessé de considérer cet arbre comme quelque chose d'étranger a priori, de sacré. Moi, au contraire, je ne me fais pas un crime de l'abattre si cela me plaît. Il reste ma propriété, quelque long qu'ait pu être le temps pendant lequel je l'ai abandonné à d'autres. Il était et il reste à moi. Je ne vois pas plus la qualité d'objet étranger dans la richesse du banquier que Napoléon dans les provinces des rois. Nous ne nous faisons aucun scrupule d'en tenter la conquête, et nous cherchons par tous les moyens à y arriver. Nous en exorcissons donc l'esprit d'étrangeté qui nous avait fait d'abord reculer d'effroi devant elle. Mais il est indispensable pour cela que je ne prétende à rien en qualité d'homme, mais seulement en qualité de moi, de ce moi que je suis. Je ne prétendrai par conséquent à rien d'humain, mais seulement à ce qui est mien, ou en d'autres termes, à rien de ce qui me revient en tant qu'homme, mais à ce que je veux et parce que je le veux. Donc une chose ne sera la juste et légitime propriété d'un autre que quand il sera juste pour toi qu'elle soit la propriété de cet autre. Dès qu'il ne te convient plus qu'il en soit ainsi, la légitimité disparaît à tes yeux, et il ne te reste plus qu'à rire du droit absolu du propriétaire. Outre la propriété au sens restreint dont nous nous sommes entretenus jusqu'à présent, il en est une autre qui s'impose à notre vénération et contre laquelle il nous est encore bien moins permis de pécher. Cette propriété est constituée par les biens spirituels et le sanctuaire de la conscience. Ce qu'un homme tient pour sacré, il n'est pas permis à un autre de s'en moquer. Si faux que soit l'objet de sa foi, et si désireux qu'on soit de l'en détacher pour le ramener tout doucement et pour son bien au culte d'un sacro-saint plus authentique, sa foi, du moins, quelque discutable qu'en soit l'objet, est sacrée et doit toujours être respectée. Quelque absurde que soit l'idole, la faculté de vénération de celui qui la tient pour sacrée est elle-même sacrée et on doit s'incliner devant elle. Dans des temps plus barbares que les nôtres, on avait coutume d'exiger de chacun une certaine foi et une dévotion à un certain objet sacré. On n'y allait pas de main morte contre les dissidents. Mais la liberté de conscience se répandant de plus en plus, le Dieu jaloux et seul Seigneur s'est depuis peu à peu transformé en ce qu'on désigne sous le nom plus vague d'être suprême. La tolérance humaine se déclare satisfaite du moment que chacun révère un objet sacré, quel qu'il soit.